les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le bon mot, la satire, l'humour noir, qui indique par exemple une bonne façon, sinon de procéder à l'extinction de la pauvreté tous les soirs après 22 heures, du moins qui propose une recette modeste aux parents irlandais ne pouvant nourrir leurs enfants en bas âge. Si l'on ne connaît pas cette recette proposée par Jonathan Swift, il faut écouter attentivement, les bonnes idées ne sont pas si nombreuses, l'émission qui vient, la première d'une série de trois, Rire jaune et humour noir, du bon mot à la satire, diffusé pour la première fois sur la chaîne nationale le 15 mars 1959.
Le club d'essai de la radiodiffusion télévision française présente Rire jaune et humour noir par Arthur Adamoff et Marthe Robert.
Deux groupes de 10 cow-boys chacun se trouve face à face.
Un cow-boy de la première rangée dit à son voisin en lui désignant un cow-boy de la seconde rangée.
Tu vois celui-là?
Lequel?
Celui qui a un chapeau à large bord.
Mais ils ont tous des chapeaux à large bord.
Celui qui a des éperons.
Mais ils ont tous des éperons.
Celui qui a une ceinture cloutée.
Mais ils ont tous des ceintures cloutées.
Impatienté, le premier cow-boy tire ses pistolets et tue net 9 cow-boys de la seconde rangée, puis désignant celui qui reste.
Tu le vois maintenant?
Ouais.
Eh bien, celui-là, je ne l'aime pas.
Voilà une de ces innombrables histoires anonymes qui viennent d'on ne sait où, vont on ne sait où, et déclenchent sur leur passage une sorte de rire que l'on connaît bien sans savoir pour autant ce qu'il provoque. Ce que ces histoires ont en commun n'est pas seulement le comique, c'est une tonalité particulière, le pouvoir de créer par des moyens difficiles à identifier une certaine disposition d'esprit, une certaine humeur.
Elles sont humoristiques.
On a souvent tenté de définir l'humour, de trouver les qualités spécifiques qui le distinguent de toutes les attitudes d'esprit voisines, satire, farce, burlesque, ironie, etc.
Les définitions ne sont pas toujours très satisfaisantes. Elles sont trop subtiles ou arbitraires, plus souvent encore ennuyeuses, ce qui paraît impardonnable dans un ordre de choses où l'ennui n'a que faire.
Notre propos n'est pas d'ajouter une nouvelle définition de l'humour à celle qui existe déjà, mais de relever une analogie entre l'histoire la plus simple, la plus dénuée de prétention, et l'humour littéraire, qu'il se trouve ou non dans des œuvres humoristiques. Car l'histoire qui ne vise qu'à faire rire, celle que nous avons racontée par exemple, ne se présente pas seulement comme un jeu. Elle dissimule une intention, elle emploie une technique. Elle est, si l'on veut, une petite œuvre d'art.
Pourquoi l'histoire des cow-boys fait-elle rire? D'abord sans doute parce que son dénouement surprend. Mais elle ne fait pas seulement rire. Elle suscite aussi un sentiment de plaisir qui tient à une réussite. Si l'on veut exprimer directement le sens d'une pareille histoire, on constate qu'elle peut créer des sentiments divers, mais qu'elle perd toute sa drôlerie.
Ainsi, si l'on rend le sens immédiat de l'histoire des cow-boys, on en arrive à peu près à la constatation suivante. Primo, la vie humaine n'a pas de prix, on peut tuer au hasard. Secondo, je tue des gens qui me sont indifférents et je laisse en vie celui que je n'aime pas. Exprimée ainsi, l'idée perd tout humour et tout pouvoir comique. Car elle n'est humoristique que parce qu'elle contient une arrière-pensée et que cette arrière-pensée l'oblige à prendre une forme.
Si l'humour utilise une technique, et on ne peut nier qu'il le fait, c'est qu'il est orienté vers une fin précise, même s'il n'en paraît rien.
Bien loin de lui attribuer une simple valeur de jeu, on en vient nécessairement à lui trouver un sens, à lui découvrir une fonction. C'est ce sens et cette fonction que Freud met en évidence quand il étudie les rapports du mot d'esprit et de l'inconscient. S'il en est ainsi, l'humour ne serait pas aussi éloigné de la satire que l'on se plaît à le dire. Il serait une satire qui ne dévoile pas son jeu, qui ne montre jamais les dents et ne révèle même pas l'objet qu'elle prend pour victime.
Les plus belles histoires racontées par Freud dans son livre ont toutes ce caractère secrètement subversif qui, en dernière analyse, est à l'origine de notre plaisir. Un tapeur juif est malade et les médecins lui prescrivent les bains de mer. Il va trouver un riche baron et sollicite un secours qui lui permettra de se soigner.
Bien, je vais vous donner quelque chose. Mais vous faut-il absolument que ce soit Stand, la station la plus coûteuse?
Oh, monsieur le baron, pour ma santé, je ne recule devant aucune dépense.
Ici, l'intention subversive se révèle dans l'utilisation abusive de la logique, au détriment de toutes les considérations morales. Elle se retrouve dans une autre histoire, où l'esprit est réduit à une pure logique, ne tient compte d'aucune nécessité pratique ou psychologique.
Un autre tapeur vient pleurer misère chez un ami riche à qui il emprunte 25 florins. Le jour même, l'ami le trouve attablé dans un restaurant devant une portion de saumon à la mayonnaise.
Comment ? Vous me tapez et vous vous offrez du saumon mayonnaise ? Voilà ce que vous faites de mon argent.
Si je n'ai pas d'argent, je ne peux manger de saumon mayonnaise. Si j'ai de l'argent, je ne dois pas manger de saumon mayonnaise. Quand donc mangerai-je du saumon mayonnaise ?
Dans une autre histoire, la logique joue le même rôle et devient absurde, non pas parce qu'elle néglige la morale, mais parce qu'elle transforme un simple soupçon en certitude.
Deux juifs sont dans un compartiment de chemin de fer. L'un dit à l'autre...
Où vas-tu ?
Je vais à Katowice.
Écoute, tu me dis que tu vas à Katowice pour que je croie que tu vas à Lemberg, mais tu vas tout de même à Katowice. Alors pourquoi mens-tu ?
Si dans l'histoire précédente, la logique outrepasse les données de la réalité, dans cette autre, en revanche, la logique nie la réalité des faits pour s'en tenir exclusivement à la réalité des mots, d'où résulte là encore un sentiment indéfinissable de dépaysement et de décalage.
Un monsieur entre dans une confiserie et demande un gâteau. Il change d'idée et demande à la place un petit verre de liqueur. L'ayant bu, il veut sortir sans payer. Le patron l'arrête.
Vous n'avez pas payé votre verre ?
Mais je vous ai donné un gâteau en échange.
Mais vous ne l'avez pas payé ?
Je ne l'ai pas mangé non plus.
L'emploi du raisonnement logique irréprochable en apparence, mais niant en fait une phase de la réalité, n'est pas le seul ressort humoristique de ces sortes d'histoires. Parfois, le raisonnement est parfaitement poursuivi, mais rassemble, par exemple, plusieurs conclusions incompatibles. Dans l'histoire qui va suivre, un homme se défend à l'aide de trois arguments dont chacun serait plausible séparément, mais qui, réunis, sont absurdes.
A a emprunté à B un chaudron de cuivre. Quand il le rend, B se plaint de ce que le chaudron a un grand trou qu'il rend inutilisable. A se défend de la manière suivante.
Primo, je n'ai jamais emprunté de chaudron à B. Secondo, le chaudron avait un trou lorsque je l'ai emprunté à B. Tertio, j'ai rendu le chaudron intact.
Toutes les histoires que nous avons citées bafouent à leur manière et par des procédés qui leur sont propres les lois ordinaires de la morale et de la psychologie, comme s'il existait quelque chose qui annule l'expérience et le bon sens. Ceci est encore plus fortement mis en relief dans l'anecdote du rabbin télépathe.
Dans son temple de Cracovie, le grand rabbin N prie au milieu de ses disciples. Soudain, il laisse échapper un cri. Ses fidèles lui en demandent la cause. Il leur annonce que le grand rabbin de Lemberg vient de mourir. La communauté se met en deuil. Les jours suivants, on interroge tous ceux qui viennent de Lemberg sur la maladie du rabbin et sa mort. Personne ne sait rien. Ils l'ont tous laissé en fort bonne santé. Enfin, il est prouvé que le rabbin de Lemberg n'était pas mort au moment où le rabbin de Cracovie en recevait la nouvelle télépathique. Il est même encore en vie. Un étranger profitant de l'occasion raille un fidèle du rabbin de Cracovie.
Votre rabbin fait une gaffe magistrale en annonçant la mort du rabbin de Lemberg, puisque celui-ci est toujours en vie.
Mais peu importe, voir de Cracovie à Lemberg, c'est ça qui est formidable.
Ce qui caractérise toutes ces histoires, c'est le rapport étroit qu'elles entretiennent avec des situations précises de la vie quotidienne et des relations humaines plausibles. Toujours le point de départ est une donnée absolument réaliste. Un homme entre dans une pâtisserie pour manger un gâteau. Un autre a des difficultés avec celui qui lui prête de l'argent ou un objet. Il n'y a rien là que de très naturel. Et même quand le surnaturel intervient, c'est le surnaturel inséré dans la vie de chaque jour. Le contraste entre une situation anodine et rassurante et le bond fait subitement par la pensée fait naître un sentiment d'étrangeté. Dans une autre catégorie d'histoire, histoire dite loufoque par exemple, la donnée fantastique ou absurde est posée dès le début. L'esprit ici consiste à mettre en relief une situation impossible ou inadmissible et l'ayant fait accepter, à ramener brusquement l'attention sur un bon sens que l'on n'attendait plus. C'est le cas de toutes les histoires qui relatent de prétendus actes de fous.
Un fou pêche dans une baignoire. Son médecin s'approche et lui demande si ça mord. Le fou offensé répond
« Vous avez déjà vu des poissons dans une baignoire ?»
Un fou s'affaire sur une pelote qu'il essaie de débrouiller. Un autre fou lui demandant ce qu'il fait, il répond
« Je cherche le bout. »
Sur quoi l'autre ?«
Tu ne le trouveras pas, je l'ai coupé. »
Un homme commande des spaghettis dans un restaurant. Une fois servi, il prend soigneusement chaque spaghetti et le dispose sur sa tête. Comme le garçon attire son attention sur cette conduite étrange, il répond
« Oh, excusez-moi, je croyais que c'était des épinards. »
Bien qu'elles soient fort connues et prennent de nombreuses variantes, ces histoires restent intéressantes par la nature de l'arrière-pensée qu'elles contiennent. Ce n'est plus, comme dans les histoires juives citées précédemment, un soupçon jeté sur les relations humaines, amitié, amour, argent, foi. Ici, le soupçon porte sur l'unité même de l'esprit et sur son fonctionnement. Le principe d'unité, d'identité, de non-contradiction, le rapport du sujet et de l'objet sont taillés en pièces par l'humour, dont le principe est avant tout destructeur. Le plus bel exemple de cette destruction est peut-être l'histoire bien connue du fou et des grains de maïs.
Un fou dont l'obsession était de se croire un grain de maïs passe pour guéri. Il se promène avec son médecin dans la campagne et le médecin constate que la vue des champs de maïs ne l'émeut plus. Mais arrivé au plus proche village, le malade s'arrête brusquement devant un poulailler où des poules picorent et pâlit.
Que se passe-t-il? Vous savez maintenant que vous n'êtes pas un grain de maïs.
Bien sûr, je le sais. Mais les poules, elles, est-ce qu'elles le savent?
On aurait tort de juger légères ces anecdotes qui ont pour propos de plaire et d'amuser. Dans leur fond, elles relèvent de l'attitude même qui a dicté aux plus grands humoristes, ainsi d'ailleurs qu'à des écrivains, dont le principal souci n'était pas de faire rire, des œuvres qui ont joué et jouent encore un rôle primordial dans l'évolution de l'esprit. On pourrait disputer longtemps si l'humour a toujours existé ou s'il est une production essentiellement moderne. Il est certain que de tout temps, une tendance à ridiculiser et à bafouer ce qui paraît le plus respectable s'est exprimée dans les lettres. Pourtant, il semble bien que l'humour systématique ne soit apparu qu'à la faveur des grands bouleversements sociaux, philosophiques et politiques survenus au XVIIIe siècle. Tandis qu'auparavant, le comique satirique s'attaquait directement au travers aux anomalies et aux abus qu'il voulait dénoncer. On voit naître au XVIIe siècle une nouvelle forme d'esprit d'autant plus efficace qu'il cache son jeu. Dès lors, c'est par le biais, l'allusion, l'analogie grotesque et tous les moyens propres à discréditer que l'on arrache la pensée à son confort, que l'on incite à remettre en question les principes mêmes qui la fondent. Et cette technique est nécessaire car ce ne sont plus seulement des vices ou des tares visibles qui sont moqués ou dénoncés. C'est la situation de l'homme dans la société et dans le monde. C'est l'incertitude qui marque à la fois les rapports entre les hommes et ceux de l'homme avec la nature.
C'est sous la forme d'une satire politique et sociale dont le ton est complètement réinventé que l'humour moderne fait son apparition avec Jonathan Swift, écrivain irlandais qu'André Breton considère comme le véritable initiateur en matière d'humour noir. Voici quelques pages de Swift parmi les plus célèbres, intitulées
« Modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres en Irlande d'être à charge à leurs parents ou à leur pays et pour les rendre utiles au public. »
C'est une triste chose pour ceux qui se promènent dans cette grande ville ou voyagent dans la campagne que de voir les rues, les routes et les portes des cabanes encombrées de mendiants que suivent 3, 4 ou 6 enfants.
Tous en haillons et importunant chaque passant pour avoir l'aumône. Ces mères,
au lieu d'être en état de travailler pour gagner honnêtement leur vie, sont forcées de passer tout leur temps à mendier de quoi nourrir leurs malheureux enfants, qui,
lorsqu'ils grandissent,
deviennent voleurs faute d'ouvrage,
ou quittent leur cher pays natal
pour s'enrôler au service du prétendant en Espagne...
Ou se vendent aux barbares.
Tous les partis tombent d'accord, je pense, que ce nombre prodigieux d'enfants sur les bras...
Sur le dos.
Ou sur les talons de leur mère...
Et souvent de leur père.
Et dans le déplorable état de ce royaume, un très grand fardeau de plus.
C'est pourquoi quiconque trouverait un moyen honnête...
Économique.
Et facile.
De faire de ses enfants des membres sains...
Et utiles.
De la communauté...
aurait assez bien mérité du public pour qu'on lui érigeât une statue comme sauveur de la nation. Mais ma sollicitude est loin de se borner aux enfants des mendiants de profession. Elle s'étend beaucoup plus loin, et jusque surtout les enfants d'un certain âge, qui sont nés de parents aussi peu en état réellement de pourvoir à leurs besoins que ceux qui demandent la charité dans les rues. Pour ma part... Ayant tourné mes pensées...
Depuis bien des années.
Sur cet important sujet, et mûrement pesé les propositions de nos faiseurs de projets, je les ai toujours vus tomber dans des erreurs grossières de calcul.
Il est vrai qu'un enfant dont la mère vient d'accoucher peut vivre de son lait pendant une année solaire, avec peu d'autres nourritures, la valeur de 2 shillings au plus, que la mère peut certainement se procurer, ou l'équivalent, en rogaton, dans son légitime métier de mendiante.
Et c'est précisément lorsque les enfants sont âgés d'un an que je propose de prendre à leur égard des mesures telles qu'au lieu d'être une charge pour leurs parents...
Ou pour la paroisse...
Ou de manquer d'aliments ou de vêtements le reste de leur vie...
Ils contribuent au contraire à nourrir et en partie à vêtir des milliers de personnes.
Un autre grand avantage de mon projet, c'est qu'il préviendra ces avortements volontaires et cette horrible habitude qu'ont les femmes de tuer leurs bâtards. Habitude trop commune.
Hélas,
parmi nous.
Ces sacrifices de pauvres petits innocents...
Pour éviter la dépense plutôt que la honte, je soupçonne.
Qui arracherait des larmes de compassion au cœur le plus inhumain.
Le plus barbare.
La population de ce royaume étant évaluée d'ordinaire à 1,5 million, je calcule que sur ce chiffre, il peut y avoir environ 200 000 couples dont les femmes sont fécondes. De ce nombre... Je soustrais 30 000 couples qui sont en état de pourvoir à la subsistance de leurs enfants, quoique je ne pense pas qu'il y en ait autant dans l'état de détresse où est ce royaume. Mais, en admettant ceci, il restera 170 000 femmes fécondes. Je soustrais encore 50 000 pour les fausses couches ou pour les enfants qui meurent d'accidents ou de maladies dans l'année. Reste par an 120 000 enfants qui naissent de parents pauvres.
La question est donc, comment élever cette multitude d'enfants et pourvoir à leur sort.
Ce qui, comme je l'ai déjà dit, dans l'état présent des affaires, est complètement impossible par les méthodes proposées jusqu'ici.
Car nous ne pouvons les employer ni comme artisans,
ni comme agriculteurs.
Nous ne bâtissons pas de maison à la campagne, j'entends, et nous ne cultivons pas la terre. Et il est fort rare qu'ils puissent vivre de vol avant l'âge de 6 ans.
À moins de dispositions toutes particulières.
Quoique j'avoue qu'ils en apprennent les rudiments beaucoup plus tôt, durant lequel temps ils peuvent néanmoins, et à proprement parler, être considérés comme de simples aspirants.
Nos négociants m'ont assuré qu'avant 12 ans, un garçon...
Ou une fille.
...ne valent pas plus de 3 livres.
Ou tout au plus 3 livres et 1/2 couronne à la bourse, ce qui ne saurait indemniser les parents ni leur royaume.
Les frais de nourriture et de guenilles valant au moins 4 fois autant.
Je proposerai donc humblement mes propres idées qui, je l'espère, ne soulèveront pas la moindre objection. Un jeune Américain de ma connaissance, homme très entendu, m'a certifié...
À Londres.
...qu'un jeune enfant bien sain, bien nourri, est, à l'âge d'un an, un aliment délicieux, très nourrissant et très sain. Bouilli, rôti, à l'étuvée...
Ou au four.
Et je ne mets pas en doute qu'il ne puisse également servir en fricassé.
Ou en ragoût.
J'expose donc humblement à la considération du public que des 120 000 enfants dont le calcul a été fait, 20 000 peuvent être réservés pour la reproduction de l'espèce.
Dont seulement un quart de mâle.
Ce qui est plus qu'on ne réserve pour les moutons.
Le gros bétail et les porcs.
Et ma raison est que ces enfants sont rarement le fruit du mariage, circonstance à laquelle nos sauvages font peu d'attention.
C'est pourquoi un mâle suffira au service de 4 femelles.
De plus, les 100 000 restants peuvent, à l'âge d'un an, être offerts en vente aux personnes de qualité et de fortune dans tout le royaume, en avertissant toujours la mère de les allaiter copieusement dans les derniers mois, de façon à les rendre dodus et gras pour une bonne table.
Un enfant fera 2 plats dans un repas d'amis.
Et quand la famille dîne seule,
le train de devant
ou de derrière
fera un plat raisonnable et assaisonné avec un peu de poivre et de sel, sera très bon bouilli le quatrième jour.
Spécialement en hiver.
J'ai fait le calcul qu'en moyenne, un enfant qui vient de naître pèse 20 livres et que dans l'année solaire, s'il est passablement nourri, il ira à 28.
J'accorde que cet aliment sera un peu cher. Mais il conviendra par conséquent très bien aux propriétaires qui, puisqu'ils ont déjà dévoré la plupart des pères, paraissent avoir le plus de droits sur les enfants.
Je crois que les avantages de ma proposition sont évidents et nombreux, ainsi que de la plus haute importance.
Premièrement, comme je l'ai déjà fait observer, elle diminuerait considérablement le nombre des papistes dont nous sommes inondés tous les ans, car ce sont les plus grands faiseurs d'enfants de la nation, aussi bien que ses plus dangereux ennemis.
Deuxièmement, les plus pauvres tenanciers auront quelque chose à eux, que la justice pourra saisir et affecter au paiement de la rente de leurs propriétaires, leur blé et leur bétail étant déjà saisis.
Troisièmement, attendu que l'entretien de 100 000 enfants de 2 ans et au-dessus ne peut être évalué à moins de 10 shillings par tête et par année, l'avoir de la nation s'accroîtra par là de 50 000 livres par an, outre le profit d'un nouveau plat introduit sur les tables de tous les gens riches du royaume qui ont quelques délicatesses de goût. Et l'argent circulera parmi nous, l'article étant entièrement de notre cru et de notre fabrication.
Quatrièmement, les producteurs réguliers, outre le gain annuel de 8 shillings sterling par la vente de leurs enfants, seront quittes de leur entretien après la première année.
Cinquièmement, cet aliment amènera aussi beaucoup de consommateurs aux tavernes, où les cabaretiers auront certainement la précaution de se procurer les meilleures recettes pour l'accommoder à la perfection, et conséquemment auront leur maison fréquentée par tous les beaux messieurs qui s'estiment fort justement en raison de leur connaissance en cuisine. Et de plus, un cuisinier habile, qui sait comment on engage ses hôtes, saura bien rendre celle-ci aussi coûteuse qu'il leur plaira.
Sixièmement, ce serait un grand stimulant au mariage, que toutes les nations censées ont encouragé par des récompenses ou imposé par des lois et des pénalités.
Cela augmenterait le soin et la tendresse des mères pour leurs enfants,
lorsqu'elles seraient sûres d'un établissement pour ces pauvres petits.
Soutenu en quelque sorte aux frais...
Et au profit
du public.
Nous verrions ainsi une honnête émulation entre les femmes mariées à qui apporterait au marché l'enfant le plus gras. Les hommes deviendraient aussi aux petits soins pour leurs femmes en état de grossesse qu'ils le sont aujourd'hui pour leurs juments, leurs vaches et leurs truies prêtes à mettre bas. Et ils ne les menaceraient plus, ni du poing, ni du pied.
Comme ils en ont trop souvent l'habitude.
La trouvaille de Swift, qui consiste à prendre au pied de la lettre ce qu'il y a de plus suspect dans la morale et le bon sens courant, et à feindre de se l'approprier, cette trouvaille fera école. Ce sera là bien souvent l'un des ressorts les plus sûrement efficaces de l'humour tout au long du XIXe siècle. Et ce n'est pas par hasard que cette sorte d'humour a commencé à se développer particulièrement en Angleterre, pays où les contradictions sociales prirent précocement leur forme la plus aiguë.
Un siècle plus tard, nous la retrouvons chez un Thomas de Quincey, dont le célèbre essai sur l'assassinat considéré comme l'un des beaux-arts offre, avec la satire de Swift, une parenté frappante.
Il serait temps à présent que je dise quelques mots des principes de l'assassinat en vue de diriger non votre pratique, mais votre jugement. Pour les vieilles femmes et la tourbe des lecteurs de journaux, ils se satisfont de n'importe quoi pourvu que ce soit assez sanglant.
Mais un esprit sensible exige quelque chose de plus.
Premièrement donc, parlons de l'espèce de personne qui s'adapte le mieux au dessein de l'assassin.
Deuxièmement, du lieu.
Troisièmement, du temps.
Et de quelques autres menues circonstances.
Quant à la personne, je tiens pour évident que ce doit être un homme de bien, parce que si ce ne l'était pas, elle pourrait elle-même, n'est-ce pas, projeter un assassinat au même moment, et ses luttes où le diamant taille le diamant, bien qu'assez satisfaisantes, si rien de mieux n'émeut, ne sont pas en vérité ce qu'un critique peut se permettre d'appeler des assassinats. Je pourrais mentionner des gens...
Je ne cite aucun nom.
...qui ont été tués par d'autres gens dans une allée obscure, et jusque-là, tout paraîtrait assez correct, mais...
À y regarder de plus près...
Le public s'est avisé que la partie tuée, au même moment, méditait de voler son assassin, tout au moins. Et peut-être de le tuer, si elle s'était trouvée assez forte.
Toutes les fois que tel est le cas, ou bien que l'on peut penser que tel est le cas, adieu les effets originaux de l'art. Le but final de l'assassinat considéré comme un art est en effet précisément le même que celui de la tragédie selon Aristote, c'est-à-dire...
De purifier le cœur au moyen de la pitié ou de la terreur.
Or, s'il peut y avoir terreur, Comment pourrait-il y avoir pitié devant un tigre détruit par un autre tigre ?
Il est évident aussi que la personne choisie ne doit pas être un personnage public.
Soit dit en passant, le pape serait un personnage très impropre à tuer, car il a une telle ubiquité virtuelle en tant que père de la chrétienté, et pareil au coucou, il est si souvent entendu sans être jamais vu, que bien des gens, je le soupçonne, le regardent comme une idée abstraite.
Ce n'est que si un homme public a l'habitude de donner des dîners avec toutes les délicatesses de la saison, que le cas est très différent. Chacun se trouve fort satisfait que ce ne soit pas une idée abstraite. Par conséquent, il n'y a plus aucune impropriété à le tuer, sauf que cet assassinat tombera dans la classe des assassinats politiques, dont je n'ai pas encore traité.
Troisièmement, le sujet choisi doit être en bonne santé. Il serait absolument barbare de tuer une personne malade et généralement incapable de le supporter.
Par ce principe, il ne faut pas qu'on choisisse un tailleur qui ait plus de 25 ans. Car passé cet âge, sûrement il doit être dyspeptique ou du moins. Si un homme veut chasser dans cette garenne, il pensera à coup sûr de son devoir...
D'après une vieille équation établie...
...de tuer quelques multiples de 9, soit le 18, soit le 27, soit le 36.
Ici, dans cette bienveillante sollicitude pour le confort des personnes malades, vous remarquerez l'effet ordinaire de l'art qui est d'adoucir et de raffiner les sentiments.
Un ami, un philosophe, bien connu pour sa philanthropie et pour sa bonté générale, me suggère que le sujet choisi... doit encore avoir une famille de jeunes enfants entièrement dans la dépendance de ses actions, en vue d'approfondir le pathétique.
Sans nul doute, c'est là un judicieux avis. Pourtant, je n'insisterai pas trop vivement sur cette condition. Un bon goût sévère, sans conteste, la suggère. Mais néanmoins, si l'homme était d'autre part irréprochable au point de vue des mœurs et de la santé, je ne tiendrai pas avec une jalousie trop exacte à une restriction qui aurait pour effet de rétrécir la sphère de l'artiste.
Ces dernières lignes de Thomas de Quincey nous rapprochent d'un des secrets de l'humour, qui réside peut-être dans une tendresse d'autant plus douloureuse qu'elle refuse de se livrer, qui choisit de se travestir en froideur et en cruauté pour démasquer la bonne conscience.
C'est là un des traits que nous retrouverons, plus ou moins marqués de franc-comique ou d'amertume, dans la plupart des textes que nous citerons et qui tous montreront l'humour étroitement uni au tragique.
Le Club d'essai de la radiodiffusion télévision française vous a présenté « Rire jaune et humour noir » par Arthur Adamoff et Marthe Robert. Aujourd'hui, c'était « Du bon mot à la satire » avec Jean Negroni, Arlette Thomas, Pascal Mazzotti, Jean-Jacques Aslanian, Jacques Deschamps et Edmond Tamise. Réalisation René Jantet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 15 mars 1959. À suivre la deuxième de la série, Humour anglais et ironie romantique. Et d'ici là, émission à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique des Nuits de France Culture.
On vient de renvoyer la bonne, paraît qu'elle volait des sous un moment. Elle a pleuré comme une folle, crié que c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il avait vu. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça fait plaisir. Je sais pas ce que j'ai, j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. J'aime bien casser deux, trois vitres et faire croire après que c'est les courants d'air. Avec une fourchette à huîtres, j'ai crevé un œil au chat de grand-mère. Quand je suis tout seul, je dis des gros.